Martino.
Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
Vous savez, en économie, il y a la macroéconomie et la microéconomie. En journalisme aussi, hein, il y a des gens là, qui prennent un problème puis vont creuser ce problème-là pendant des années puis tout ça, puis sont des spécialistes. Et il y a du ce que j'appelle du macro-journalisme. Mon invitée, Mélanie Loisel, elle est intéressée justement par ce qui se passe dans le monde. Les grands courants qui font comme des plaques tectoniques, là. Les grands courants qui font changer le monde, que ce soit la guerre en Ukraine, le Black Lives Matter, le mouvement MeToo, ce qui se passe au Moyen-Orient, la pandémie à Hong Kong et tout ça. Et elle vient d'écrire un livre qui est disponible aujourd'hui, je crois.
Oui.
Mélanie. Alors, c'est ton lancement. D'ailleurs, ce soir, Mélanie Loisel, qui est avec nous, journaliste, auteur de ce livre-là, qui s'intitule « Ils vivent le siècle des hashtags aux révolutions ». Est-ce que c'est ça, du macro-journalisme? C'est ça qui t'intéresse?
Oui, en fait, c'est de prendre les événements les plus importants au cours de la dernière décennie, je vous dirais à partir de 2011 jusqu'à maintenant, pour un peu prendre le pouls de ce qui se passe sur la planète, avoir vraiment le pouls de l'intérieur des pays, des gens qui sont sur le front. C'est des militants, des activistes, des humanitaires, quelques personnalités politiques que j'ai rencontrées. Je veux être auprès d'eux pour pouvoir mieux saisir les enjeux sur le terrain.
C'est ça, eux autres, c'est des gens sur le terrain. Donc, c'est quoi? Vous avez voyagé à travers le monde pour les rencontrer. Ça s'est fait aussi, j'imagine, par écran interposé, ces rencontres-là?
De plus en plus, c'est des vidéoconférences. Mais il faut dire un peu, là, pour vite comprendre le concept, en 2015, j'ai sorti un livre qui s'appelait « Ils ont vécu le siècle de la Shoah à la Syrie ». J'avais rencontré une soixantaine de témoins à travers le monde sur les grands événements du dernier siècle. Et ça se poursuit maintenant avec encore une trentaine d'entrevues avec, comme je disais, là, des témoins qui sont au cœur des événements. On pense, vous l'avez dit, là, à Black Lives Matter, MeToo, mais il y a aussi des conflits dont on entend un petit peu moins parler. Et pourtant, c'est au cœur de l'actualité. On pense au Yémen, à ce qui se passe là-bas, au Myanmar, au Mali, où il y a des conflits, des guerres civiles qui ont de l'impact ici même, sans même s'en rendre compte. En fond, mon but, là, c'est de dire, écoutez, intéressez-vous à l'international, à ce qui se passe là-bas, parce que ça a de l'impact ici.
Moi, j'adore ce genre de livre-là qui me permet de prendre le pouls de notre époque. Là. Si vous voulez avoir une vision très large de ce qui se passe dans notre époque, c'est parfait. C'est une trentaine de gens qui travaillent sur le terrain. Ce n'est pas des théoriciens. Ce n'est pas des gens qui sont dans des universités et qui font de la recherche dans des documents. C'est des gens qui travaillent sur le terrain pour régler des problèmes là, concrets.
Ce sont des gens qui vraiment là, créent des corridors humanitaires pour acheminer de la nourriture. Ce sont ceux qui sont au front, qui combattent les grands dictateurs qui prennent la parole, tweetent contre Wagner. Donc, c'est vraiment, ou encore, vous vous souvenez sûrement de la journaliste russe qui est apparue au début de la guerre en Ukraine avec sa pancarte No War,
oui.
qui a pris cette initiative-là qui était extrêmement risquée. Donc, c'est des gens qui
vous
sont
prêts. Vous lui
avez
parlé?
Oui, je lui ai parlé, bien sûr. Donc, dans ce livre-là, c'est vraiment des gens qui font l'actualité. Je pense entre autres à la prix Nobel de la paix qui nous parle de l'Iran, Madame Shirin Ebadi. Donc, c'est des personnalités, plusieurs ne sont pas connues, je vous dirais, mais il y en a d'autres, lorsqu'on s'intéresse à leur histoire, on se dit « Ah oui, ce sont elles qui ont fait ça ». Je dis « elles » parce que finalement, dans ce livre-là, il y a à peu près 90% des femmes, alors que pendant le dernier siècle, à l'arraché, j'ai cherché des femmes pour pouvoir parler de ce qui s'était passé. Il n'y avait que des hommes, ou presque. Et maintenant,
un tournant
majeur. Parce que dans le fond, c'est les femmes qui actuellement sont en train d'aider les victimes civiles, qui aident les populations démunies, qui osent. Et aussi, tu sais, on pense aux femmes iraniennes, mais aussi les femmes en Afghanistan.
Ben oui.
Il y en est question. C'est les femmes qui, aux États-Unis, actuellement, il y en est question dans le livre aussi, qui subissent les impacts de la loi anti-avortement. Donc, il y a beaucoup d'enjeux.
Et ce sont des militants, c'est ça? C'est des gens qui veulent changer la réalité.
C'est des militants qui croient à faire un monde meilleur, si je peux dire, sans être complètement là, utopique. Là. Mais ils militent pour plus de droits humains, pour plus de liberté, de justice, d'égalité et aussi pour la paix. Parce que tant et si longtemps qu'on n'arrivera pas à faire la paix, il va falloir des gens, des hommes, des femmes courageux qui vont sur le terrain, qui se soulèvent contre tous ces régimes dictatoriaux et autocratiques.
Et là, la question, là, parce que moi, je suis de nature pessimiste. Et la question, quand on regarde le monde là, ces temps-ci, là, on dit, hey, là là, ça brasse, ça va mal, puis tout ça. Là, est-ce que ces genres de livres, on termine ça en disant, il y a de l'espoir. Vous, là, quand vous avez fait ce travail-là, est-ce que vous dites, c'est des gens quand même qui combattent des situations là, qui sont pas faciles, est-ce que vous vous dites, il y a de l'espoir?
Oui, il y a de l'espoir. En même temps, là, faut être réaliste. Actuellement, sur la planète, ça bouge. C'est dangereux. Il y a beaucoup de guerres, de conflits. C'est difficile de garder espoir.
La polarisation aussi.
Oui, exactement. Des montées de l'extrême droite, vraiment dangereuses, mais aussi l'autre extrême. L'extrême gauche aussi est tout autant... Dans le fond, tous les extrêmes font peur et ça a de l'impact sur nous. Mais parmi les 30 personnalités que j'ai rencontrées, tout le monde a utilisé le mot « espoir » parce qu'ils se disent « si c'est pas nous qui allons au front, si c'est pas nous qui se mobilisons, mais comment on va pouvoir vivre dans des meilleures conditions? » Donc, ils gardent espoir, mais aussi en disant « si on n'a pas espoir, ma vie n'aurait pas de sens. »
Et vous connaissez dans le domaine de l'espoir, parce que je veux en parler, vous avez travaillé avec Martin Gray. Martin Gray, là, ma génération, au nom de tous les miens, c'était un livre là, incontournable. Je veux dire, tout le monde a lu ça lorsqu'ils étaient jeunes. C'était un survivant de l'Holocauste qui a eu une vie extraordinairement tragique. Et n'importe qui aurait sombré dans le désespoir le plus épouvantant. Martin Gray, c'était une lueur d'espoir. Vous avez écrit un livre avec lui qui s'intitulait déjà...
Ma vie en partage.
Ma vie en partage. Comment ce gars-là pouvait quand même être, mon Dieu, rempli d'espoir avec tout ce qu'il a vécu?
Bien, en fait, dans la vie, on réalise, tant qu'on est vivant, tant que le cœur nous bat, on se réveille tous les matins, on doit manger, il y a du monde autour de nous. Donc, il vient à un moment donné, on fait un choix, on avance ou ça s'arrête. Puis Martin Gray, lui, a fait le choix d'avancer.
Puis sa famille a été décimée, hein?
Ben oui, c'est ça. Et donc, première fois pendant la guerre, il perd toute sa famille, parents, enfants, parents et aussi soeurs et frères et toute la grande famille. Un deuxième incident dans un incendie au tournant des années 70 par sa femme, ses quatre enfants. Par la suite, il a refait une famille avec trois autres enfants. Sa femme décède du cancer et ça a été une succession d'épreuves très, très difficiles. Mais il a choisi la vie. Il a choisi de s'entourer de gens qui, au fur et à mesure, on s'en rend pas compte, mais on finit toujours par rencontrer quelqu'un qui nous tend la main, qui nous fait rire, qui nous amène sur d'autres chemins. Puis je pense aussi, grâce au livre « Au nom de tous les miens », qui a été vendu des millions là, d'exemplaires dans plusieurs langues, cet amour-là du public l'a porté, l'a soulevé jusqu'à sa mort, qui était à la fin avril, là, il y a quelques jours. Là, il est mort à 92 ans le 24 avril. Là, j'ai pensé à lui
là,
il y a quelques jours. Ouais.
Oui. Ah, ben prenez ça, je ne savais pas. Et des gens qui ont vécu tout ça, ils ont la coin de Dieu, puis des fois, c'est des gens pas faciles. Il était comment, Martin Gray?
Ah, mais Martin Gray, je vous dirais qu'il était un peu bourru, parfois.
On te gérait à moi, hein?
Il était très exigeant, je vous dis. On travaillait ensemble, il m'appelait tous les jours, jour et nuit, à 2h du matin. Lui, il n'avait pas d'heure, il dormait très peu, en me disant, Mélanie, j'ai pensé à quelque chose, je veux qu'on dise dans mon livre, dans notre dernière entrevue, telle chose, je veux qu'on parle de telle autre. Ah, j'ai relu ce que tu as écrit, il manque un point, je veux une virgule là. Et il était vraiment là, attentif au message qu'il voulait livrer.
Et là, Mélanie, ils ont vécu le siècle, ils vivent le siècle. prochain livre, ce serait quoi? Êtes-vous en train de travailler? Vous arrêtez pas?
Elle vit l'aventure, je dirais. Parce que les copains autour de moi, en disant, ils auront vécu le sien. ça fait un peu bizarre de le faire au futur. Mais disons que je vais continuer mon aventure. Mais mon engagement, moi, a toujours été de donner la voix aux sans-voix, aux opprimés, aux gens dans des difficultés pour faire changer la situation. Je suis engagée pour de meilleures conditions à travers le monde.
C'est
pour...
votre façon de vous engager aussi, c'est de faire connaître ces gens-là puis de leur tendre le micro.
Je pense que oui, parce que à chaque fois qu'il y a un gros événement, je me sens tellement impuissante. Je me sens impuissante actuellement en regardant ce qui se passe à Gaza. Je me suis sentie impuissante quand il y a eu des grands mouvements, quand les talibans sont arrivés au pouvoir. Souvent, on se sent démunie et je me dis toujours, bon, quel est mon talent? Ce que je peux, j'ai un peu quand même une certaine facilité à écouter les gens, à les approcher, à les dénicher, à les convaincre et par la suite, leur donner la parole. C'est ce que je peux faire. Je crois vraiment que tout le monde peut faire sa petite part dans la vie. Pas nécessairement comme moi à l'échelle internationale parce que ça m'intéresse, les conflits, mais autour de nous. Je pense qu'actuellement, si tout le monde y mettait son petit grain, là, peut-être que ça irait un peu mieux.
Mais c'est un livre important. Puis des fois, au Québec, des fois, on se regarde entre nous, puis tout ça. On oublie des fois que le monde existe hors du Québec. Puis c'est important, si vous voulez prendre le pouls, justement, de l'époque aujourd'hui, puis voir comment ça bouge, les plaques tectoniques, là, c'est le livre à lire. Donc, Ils vivent le siècle des hashtags aux révolutions de Mélanie Loisel. Bon lancement ce soir.
Merci Mélanie. Au plaisir.